meilleures histoires.
Bonjour, vous êtes bien, vous êtes sur l'autre radio, bienvenue dans cette nouvelle émission Transistor. Le dossier du prochain magazine Transistor étant dédié au festival en Mayenne et la saison des 10 festivals étant désormais bien lancée, l'occasion était toute trouvée de consacrer cette émission à un valeureux représentant des festivals en Mayenne, j'ai nommé Les Entrelacés. Un festival qui d'ailleurs fête cette année sa 25e édition. Une autre bonne raison de vous inviter à ce micro, Benoît et David, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nicolas.
Alors, je vous laisse vous présenter, peut-être pour que nos auditeurs sachent à qui ils ont affaire. Je sais pas par qui on commence.
Ah bah on va commencer par David.
David, moi je suis le coordinateur du festival, le seul et l'unique demi-salarié de l'association.
Le 60% salarié.
Le 60% de ouais, c'est ça.
Voilà, Benoît. Et Benoît, bénévole, ou plutôt militant de l'engagement.
Ex-président aussi de l'asso.
Si je ne me trompe pas. Ex-président pendant 7 years, 7 ans, et puis voilà.
Et toujours dans l'équipe bénévole.
Toujours dans l'équipe bénévole. Alors après, on va pouvoir revenir un peu plus tard dans l'émission, je pense, sur le terme.
Je te laisse la parole sur
le terme bénévole. Sur le terme bénévole, mais effectivement, oui, je suis bénévole depuis 12 éditions, je crois.
Peut-être préciser aussi qu'avec David, et on y reviendra également, tu gères et tu t'occupes de la programmation.
Exactement.
Poste prestigieux s'il en est.
Exactement.
Dans un festival.
Je suis un peu le programmateur rigolo des Entrelacés. Tout ce qu'on les spectacles un peu rigolos, c'est moi.
D'accord.
C'est ça. Moi, c'est les chiens.
Donc, avant de parler du festival. De rentrer un peu dans le détail de ce projet-là, de ce festival. Peut-être revenir un peu sur la dernière action que vous avez menée, puisqu'il n'y a pas que le festival aux Entrelacés. Il y a aussi un marché bio, il y a peut-être plein d'autres trucs. Mais la dernière action, c'est ça, qui a eu lieu là il y a quelques jours, le 24 mai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi un festival d'art de rue organise aussi un marché bio, de producteurs bio, on va dire.
En fait, c'est complètement en lien avec la démarche qu'on met en place pendant l'été au festival. Les Entrelacés sont adossés à une brocante, une braderie, un vide-grenier, qui a lieu tous les ans le 14 juillet, en même temps que le festival. Et on aime bien, nous, cette proximité avec les gens les gens qui viennent vraiment pour autre chose que pour voir des spectacles. Et on aime bien le fait que des familles ou des gens... passent dans la roseraie, voient un spectacle et s'y arrêtent sans même savoir ce que c'est et pourquoi ils sont là, quoi. Et donc on avait envie de retrouver cette mixité de public autour de l'autre événement. Voilà, et puis dans les discussions qu'on peut avoir de la vie de tous les jours, voilà, il y a des engagements que certains peuvent avoir, plus ou moins prononcés, et cette idée de marché bio est sortie. Voilà.
Il y a un engagement, c'est un festival engagé, les Entrelacés, est-ce qu'on peut dire ça? Ou est-ce que c'est plutôt aussi les porteurs de ce festival-là qui, par leurs engagements, forcément influencent vos choix?
Les bénévoles sont engagés, alors sont engagés déjà dans l'histoire du festival, mais sont engagés au quotidien chez eux sur divers sujets. Alors après, on partage certains des engagements, ça peut être sur pas mal de volets. Mais pour revenir sur l'histoire du marché, en fait, on a été accompagné par le pays de Haute-Mayenne dans une démarche de développement durable où en fait on avait une bourse qui nous aidait à passer en bio toute la partie restauration
du festival.
Voilà, c'est ça, et ça a été sujet à réflexion, discussion dans l'équipe, et notamment des gens qui n'étaient pas du tout sensibilisés, qui à un moment donné sont rendus compte de choses et ont mis en place des choses chez eux, le tri sélectif, le fait d'aller faire ses courses ailleurs qu'en supermarché, les produits locaux, etc., etc. Et ça a entamé des réflexions. Et voilà, en fait, le marché, il est aussi issu de cette chose-là, quoi. C'est un prolongement de cette démarche et cet engagement qu'on avait par rapport à des sensibilités écologiques, quoi. Mais qui sont plutôt des sensibilités, on va dire, des enjeux d'aujourd'hui, quoi. Faut pas que les réduire à des enjeux écologiques, quoi.
Je parlais tout à l'heure du dossier qu'on allait consacrer dans le prochain numéro de Transistor au festival en Mayenne. En introduction, est-ce qu'on pourrait aussi, ça serait intéressant d'avoir votre avis sur justement ce paysage des festivals sur le département et la façon dont vous vous inscrivez là-dedans, la place qu'ont les arts de la rue aussi dans ce paysage-là. Voilà, est-ce que vous pouvez m'éclairer là-dessus? Vaste question.
Ouais, vaste question. La place qu'on a, alors je sais pas, alors on pourrait dire des mots. Qui caractérise, mais de manière un peu caricaturale, quoi. ce qui nous caractérise, nous, c'est peut-être le fait d'avoir une mixité vraiment de public, quoi. En tout cas, c'est ce qui nous intéresse et ce qui nous botte. Je crois qu'on est...
De par le fait que vous soyez adossé justement à des événements qui ne sont pas culturels.
Ouais, puis on est dans le Nord-Mayenne, dans une zone vraiment rurale, avec peu d'offres culturelles en dehors de la ville de Mayenne. Enfin voilà, il y avait les trois éléphants qui étaient là il y a quelques années, mais ça c'est du passé.
On n'a pas le droit d'en parler, je crois.
Ah pardon, excuse-moi.
Ce sujet est tabou.
Non,
on peut en parler.
Non, mais effectivement, c'est un endroit où l'offre culturelle est pas pléthorique. Et nous, là-dedans, on a envie d'avoir une place, mais enfin, c'est un peu nul ce que je dis. Pardon, tu pourras couper, s'il te plaît.
Non, mais des fois, il commence des phrases, mais il n'arrive pas à les finir. Bon, c'est un peu le côté un peu stress, un peu. Événement. Alors, notre place parmi les festivals, puisqu'il y a un festival des festivals en Mayenne, c'est quoi ? C'est les arts de la rue. C'est vrai que c'est souvent adossé à la musique. Nous, on adosse quelquefois la musique aux arts de la rue. Hein, c'est un peu le revers de la spécificité de la chose, hein, j'ai envie de dire.
Vous prenez ça à l'envers.
Exactement. On ne s'est jamais trop posé la question, à part sur notre notion de territoire, sur la communauté de communes de Mayenne, où on est obligé de réfléchir avec les associations environnantes, avec nos amis du kiosque, avec nos amis d'un singe en été, la compagnie Eau, etc. Il y a plusieurs acteurs dans le Nord-Mayenne. Donc là, nous, on réfléchit à notre place pour avoir une bonne entente d'occupation du terrain, on va dire.
Mais alors, et du planning là...
Et du planning, voilà, et aussi des ce qu'on peut mutualiser comme moyen, la construction de gradins qu'on a fait ensemble, des choses comme ça. Mais sur l'échelle d'un département, c'est vrai que même si on est financé, et on remercie beaucoup, là, il ne faut pas le dire ça, je crois. Hein.
Ça fait, là, tu peux cocher, là, c'est bon. C'est fait.
Il y a la région, la commune, par
exemple. Ouais, c'est bon.
Il y a plein de choses, hein, parce qu'on a 80%.
Ils sont venus avec des drapeaux et tout, mais ça ne passe pas à la radio. Donc.
Voilà, mais on ne s'est pas forcément posé la question. Dans les arts de la rue, on a nos amis de Château-Gontier, puisqu'on est sur une radio originaire de Château-Gontier, la Chalibaute, qui fait les arts de la rue. Après, il y a...
Oui, on est deux acteurs départementaux, voilà.
Avec les trois éléphants qui ont aussi un volet art de rue assez important.
Mais bien sûr, mais carrément. Mais c'est le volet art de rue Rolls-Royce, en fait. Tout ce qui est fait aux trois éléphants, on aimerait vraiment le faire chez nous, mais c'est trop cher.
C'est une blague, ça. Non,
puis à la Célestat, on n'a pas le droit de faire les trucs trois éléphants, tu te rappelles?
Oui, c'est vrai.
Bah, c'est tabou.
Voilà, bon, voilà.
Ok, très bien. Bah, écoutez, Transistor, l'émission qui reçoit les Entrelacés aujourd'hui, c'est parti. Et je vous propose de continuer cette émission en musique avec votre premier choix musical, Des Lions pour des Lions.
Thank you.
Voilà, des lions pour des lions, Walking in Kebab, je sais pas si je prononce bien.
Non, l'accent est bon. Hein.
Ouais, l'accent est bon. Ouais, l'accent ouais, très bon. Bien.
Petit solo
bon.
De clarinette à la fin, qui, hein, qui dit on est, ouais. C'est fini, c'est pas fini. C'est... Hein.
C'était votre premier choix musical. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce choix, sur cette sélection? Groupe Angevin, Fanfare.
C'est ça, ouais, micro Fanfare Angevine, trois musiciens, ouais, qu'on a accueillis plusieurs fois déjà aux Entrelacés et qu'on aime beaucoup. Et c'est des gens qui jouent dans différentes formations. On les a vus aussi avec Jobitume, pour certains. Voilà, donc c'est des gens qu'on aime personnellement et professionnellement.
Wow.
Voilà, sur les deux tableaux.
Est-ce que la musique a une place importante dans le festival? Puisque quand on parle art de rue, souvent on pense plutôt au théâtre, au cirque, et pas forcément à la musique. Mais pourtant, il y a aussi tout un volet de la musique, les fanfares par exemple, qui se prêtent complètement à la rue. C'est une question, ça, que je pose.
Ben, quelle place y a... On va réfléchir et puis
quelle est la
on
place
te rappelle demain. Que
vous aviez l'air...
Oh, les questions. Ouais. Non, mais elle est bonne, ta question. Elle est très bonne.
Merci.
La musique, c'est un art. La musique,
non, mais prend... quelle est la place
non,
de...
Ça
de
prend... En fait, la musique non sonorisée, voilà. Elle prend pleine place dans la rue. Elle prend une autre dimension si on la met au pied d'un château fort, ce qu'est le cas, là, c'est les châteaux. Ou si on la met au milieu d'une braderie, ou si on la met au milieu d'un petit champ avec de l'herbe où les gens sont assis. Effectivement, c'est... La musique a une place importante dans notre festival, et encore cette année, on en reparlera tout à l'heure, mais voilà, dans notre programmation, je fais des teasers comme ça. David, qu'est-ce que t'en penses, toi?
Ouais, j'en pense... Non, mais on s'intéresse à la musique, mais peut-être à un certain style de musique, ou en tout cas, c'est pas une histoire d'esthétique, mais une histoire de manière de le présenter à un public. La musique, en fait, il y a deux formes aux Entrelacés. Il y a plutôt des choses qui sont sous forme de commande, où on appelle un artiste, on lui demande de piocher dans son répertoire ou d'inventer quelque chose, et l'idée c'est pas de parler de musique, mais d'abord de rapport à l'autre, quoi. Et en fait c'est comme ça qu'on intervient, enfin qu'on les interpelle. Et puis les choses qu'on accueille sur le festival, effectivement du type fanfare, l'idée c'est d'être dans une déambulation et d'être d'occuper la rue, quoi. Voilà, c'est un peu les deux entrées qu'on a quand on essaie de s'intéresser à la musique.
Avant qu'on poursuive sur les Entrelacés, est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur vos parcours personnels, très riches, voilà, pour savoir un peu mieux aussi comment justement vous êtes arrivé aussi à vous occuper de ce festival-là. David, toi, t'es pas un lacéen, t'es plutôt t'es du Nord-Mayenne quand même, mais plutôt de Pré-Empaille.
Chut. La ville de la route.
C'est ça.
Voilà. Et
National 12. Ouais.
Et voilà, quel était ton parcours jusqu'aux Entrelacés? Tu as travaillé sur ce territoire-là, justement, de Pré-Empaille, ce qu'on appelait le Haut-Ménépaille à l'époque.
Exactement, le Haut-Ménépaille. Ouais, moi je suis issu de la campagne du Nord-Mayenne, Pré-Empaille, et début associatif il y a une vingtaine d'années, en montant Payasso Loco.
Voilà, dont tu as été un des fondateurs.
Ouais, c'est ouais, ça, ouais, complètement. Ouais. En gros,
l'association qui est toujours très active sur ce territoire.
C'est ça, ouais, on est plutôt contents. Ouais, il y a une pérennité dans ce qu'on a semé. Et l'idée, c'était de réveiller un peu la campagne. Enfin, on s'est rendu compte qu'on s'ennuyait profondément le week-end et que fallait qu'on prenne les choses en main. Et on a commencé à monter des choses diverses et variées. Et puis le parcours professionnel a suivi un petit peu cette ligne-là, quoi, de l'engagement associatif, soit de manière professionnelle, soit de manière bénévole. Donc moi, j'ai toujours baigné dans ce milieu-là. Mais en termes de parcours, moi, j'ai une formation de travailleur social à la base. Et l'idée, ça a été assez rapidement de lier la culture et le travail social dans différents types de structures avec différents publics.
Et comment t'arrives aux Entrelacés, du coup? Et quelle année?
Et j'arrive aux Entrelacés il y a peut-être 10 ans maintenant.
Ah, quand même.
Ouais, quand même, finalement. Ouais. Expatrié comme beaucoup, et puis retour sur le territoire avec des enfants, puis l'envie de partager des choses en famille. Et j'ai trouvé un travail au Prisme à l'époque, donc saison culturelle du Mont des Avaloirs. Et
qui incluait dans son territoire qui... à l'époque, là, il y a eu des changements territoriaux ensuite, on va pas entrer dans le détail de ça.
On s'est fait bouffer.
Mais en tout cas, à ce moment-là, t'as eu en charge le festival, quoi.
C'est ça.
Dans tes attributions professionnelles.
Dans le package saison, il y avait aussi le festival.
C'était un beau cadeau.
Ouais, c'était pas mal. Ça faisait une belle boucle de septembre à mi-août, quoi. Donc c'était quand même c'était assez dense. Et donc on avait ce package entrelacé. Et réforme des territoires, fusion, etc. etc. Moi, j'ai migré, je suis parti de la collectivité là-bas, dans le Nord Mayenne, et j'ai migré vers Lassay-les-Châteaux pour intégrer l'équipe de manière permanente. Donc, on était trois personnes à être mis à disposition, et du coup, je suis devenu un peu le couteau suisse de l'association. Quoi. J'ai remplacé ces trois personnes en une seule, mais pas avec un temps.
À mi-temps.
Et que, voilà, c'est ça.
Le mec a fait trois temps pleins, à 60% de son temps.
Pas tout à fait quand même, mais voilà. C'est
pour vous dire l'efficacité.
Ouais, c'est ça. Jetez-moi des fleurs.
Et les 40% du temps, du coup.
Ah, les 40% du temps, il y a 20% où en fait je le donne, je pense, aux entrelacés.
D'accord.
Et puis non, il y a une partie dedans personnelle où je me balade, et puis une autre partie du temps où je suis boulanger dans une ferme à Montflour, chez les Radi & Co.
D'accord. Bio aussi, du coup.
Ouais, bio. Ouais. Ouais. Peut-être un lien avec le marché, du coup, quelque part.
D'accord, donc ouais, c'est quand même une. On appelle ça un slasher, c'est-à-dire quelqu'un qui multiplie.
Alors on n'est pas de la ville, nous, donc on connaît pas ce
métier. Slash.
Qui multiplie un peu les métiers, mais du coup, je pense pas qu'il y ait beaucoup de cas de figure comme le tien, quoi.
Ah oui.
Boulanger,
programmateur, moi, je trouve que ça sent bien.
C'est pas mal, quand même.
Ouais, c'est assez classe, ouais.
Ça te permet de voir une diversité de gens et de milieux, quand même.
Ouais,
assez...
complètement, moi, ça n'a rien à voir, même en termes d'échelle de temps. C'est-à-dire que le festival, on est un an à réfléchir. À mettre toutes les choses en place, à faire des bilans, à rencontrer des gens, à contacter des compagnies,
anticiper,
etc. Ouais. Bon, la boulangerie, t'arrives le matin, et puis le soir, c'est fini, t'as fait ton truc, et tu vois comment ton pain est fait.
C'est concret.
C'est très concret, et puis il y a le fait aussi de faire des choses de ses mains, quoi. D'être vraiment actif, et puis un temps vraiment hyper millimétré, quoi. C'est-à-dire que la boulangerie, ça souffre pas le retard, ou en tout cas l'oubli de quelque chose, quoi.
Alors que dans le milieu culturel, on est tout le temps en retard.
Tu rattrapes toujours, t'as les copains qui sont là, les bénévoles qui te filent un coup de main, c'est super, quoi. T'es pas tout seul, quoi.
Et Benoît, du coup, toi, est-ce que tu peux nous résumer ton parcours ? Toi, tu n'es pas lacéen non plus, même si aujourd'hui tu vis à Lassay. Toi, tu es plutôt un gars de Saint-Nic-Gatine, Herné.
Herné, Saint-Nic-Gatine, voilà. Exactement. Et
on est toujours dans le Nord, quand même.
Oui, bien sûr. Je me suis formé au bénévolat et j'ai participé au tout début du Foin de la Rue. J'ai eu l'honneur d'être le premier président lors des deux premières années.
On a quand même deux pionniers autour de la table. Hein.
Voilà, donc avec les copains, on a monté ce festival entre jeunes à Saint-Nic-Gatine et qui fêtent leurs 20 ans d'ailleurs cette année. Donc, 25 ans, c'est un peu l'année des anniversaires. Donc voilà,
chargée.
Bénévole dans cette association-là. Et puis dès que je suis arrivé sur la scène, moi, le meilleur moyen de connaître des gens, c'est pas d'aller à l'église, me concernant, c'est plutôt de faire partie d'associations.
Celui-tu étais
en franc de cœur aussi, par exemple, dans une autre.
C'est vrai que t'as omis ce passage-là de ta vie.
Exactement.
Mais c'est pas grave.
Et comme je suis pas sportif, si je me suis quand même inclus dans le village par le ping-pong aussi, enfin le tennis de table. Voilà, et puis là c'était assez sympathique. Et puis j'ai connu pas mal de personnes alcooliques.
Bon.
Je rigole, bien sûr, c'était une blague.
Donc tu as intégré l'association.
Voilà, intégré
lors de ton arrivée, de ton installation à Lassay-les-Châteaux.
Et puis il s'est avéré que quand je suis arrivé, la présidente partait et que personne ne voulait reprendre la présidence. Et moi, c'était pas quelque chose qui me faisait peur, la présidence, puisque je me suis dit que l'équipe en place était constituée d'une dizaine de personnes. À l'époque, j'étais juste là pour être un nom sur un papier. Et puis, ma première année de présidence, on s'est retrouvés quatre.
Ils sont tous barrés.
Donc là, je me suis dit, il y a un problème avec la présidence ou quoi ? Non, pas du tout. Je crois que les gens ont suivi l'ancienne présidente, avaient envie de s'arrêter, qu'il y ait un nouveau cycle. Et donc, les premières années étaient assez compliquées. David est arrivé à ce moment-là, dans ses premières années, et a trouvé une équipe avec des réunions tous les mois, avec 3-4 personnes. C'était ça. Hein. C'était pas la dynamique qu'on a aujourd'hui.
Alors, David, pas moi, hein, l'autre David.
Non, c'est toi, David.
Ah, c'était moi, pardon.
Ouais, il y a des David.
On va rester sur le David qu'on a en face de nous. Parce que
je suis perdu. Ouais. Les David, il y en a trop, de toute façon.
Déjà, vous êtes perdu entre vous, donc j'imagine pour l'auditeur.
Christian.
Donc, pardon. Christian, tu vas nous. Non, bref. Du coup. Bon, voilà, donc, voilà ton parcours voilà, au sein parcours, de l'association Entrelacé, mais j'aimerais qu'on aborde aussi ton parcours d'artiste, de créateur. Non, mais c'est vrai, enfin, mais bien sûr,
c'est important.
Et puis il y a voilà, enfin, il y a.
Voilà,
donc, tu, pas de tabou.
Tu fus chanteur, voilà, tu fus chanteur d'un groupe.
Voilà, juste.
Qui existe toujours d'ailleurs.
Alors, qui n'existe plus sous sa forme actuelle, puisque j'ai été chanteur voilà, du groupe Lostic, qui a pendant 20 ans dit des cochonneries et a distillé.
Sur fond de punk rock.
Voilà, sur fond de punk rock un peu dégueulasse, pendant 20 ans. Et puis aujourd'hui, je continue avec un autre projet qui s'appelle Serre, comme l'animal, hein, voilà, qui est plus de la musique française, un peu rock'n'roll, un peu d'accord. plus sérieux. Donc ça, c'est le côté,
connaître.
Voilà, c'est le côté, bah, ça va bientôt venir. Hein, c'est le côté musique, et puis à côté de ça, moi, je suis toujours passionné par l'écriture. Je pense que la musique, c'est juste un moyen d'écrire. Il faut se vendre un petit peu. Donc non, moi, ma passion, fait, j'écris des pièces de théâtre. J'écris des pièces de théâtre et je les joue.
Tu es la Martinique, là, t'as pas besoin de dire que t'es écrivain, c'est bon.
Et je le joue chez les gens. Donc voilà, non, mais c'est jamais écrire.
Très bien. Et du coup, c'est des pièces de théâtre que tu joues et que tu écris pour qui, en fait?
Alors, c'est des pièces de théâtre que j'écris pour moi-même et pour d'autres personnes, voilà. Et donc, qui sont jouées uniquement dans le cadre du domicile. Donc, les gens nous invitent chez eux et pendant 40, 45 minutes, une heure, on joue la pièce dans cette proximité et cette intimité du domicile.
D'accord.
En faisant des petits pas.
Voilà.
Écoutez, ça pourrait être l'occasion d'une autre émission. Je vous propose de continuer, justement, cette émission en musique avec Bourvil.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien, et c'était bien. Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.
Le petit bal perdu, Bourvil. Donc, un choix de notre duo invité.
Quelle belle chanson, mes amis, quelle belle chanson.
N'est-ce pas ?
Alors, pourquoi on l'a choisi ? Parce que quand tu nous as invités, Nicolas, puisqu'on se connaît, on se tutoie, hein, on a fait des choses ensemble.
Tu viens tout honneur.
Voilà, exactement. Quand tu nous as dit, il faut choisir des chansons appropriées au contexte et en rapport avec notre histoire des entrelacés. Voilà, on a réfléchi à plusieurs chansons. Tu nous as censuré quelques-unes, hein, mais Bourville, le petit bal perdu, c'est
l'autre
tout.
Radio. On est hyper formaté. On a un timing à tenir. Les publicités, sûr. Là, enfin, c'est.
Non, c'est faux, parce qu'à la fin, il y aura un Didier super. Enfin, je vous tisse ça, ça va être super.
Ouais, restez pour ça.
Non, tout à l'heure, tu nous parlais, tu posais la question de notre rapport à la musique. On a omis de dire que le 13 juillet et 14 juillet, en fait, c'est aussi une date populaire également.
Date
en
du
France,
festival.
Voilà, date du festival, parce qu'il y a des balles populaires, hein, on va dire, et que nous, on a perpétué un peu cette tradition depuis 5 ans maintenant. Le 13 au soir, on finit toujours, après les spectacles, par un grand bal populaire ouvert à tous, avec des groupes un peu décalés qui viennent de la rue. Hein, principalement. Et puis cette année, on fait venir on a pété la tirelire pour les 25 ans et on fait venir un groupe qui s'appelle Les Variétistes.
Le bal des Variétistes.
Ah, oui.
Voilà, David, tu peux peut-être en parler maintenant.
Non.
D'accord.
C'est sympa. On avait dit qu'on parlait de la prog à la fin de l'émission.
Ah, pardon. Voilà. Okay.
Bon. Je reste dans ce qu'on nous a dit.
Okay.
Bien. Donc voilà l'explication du petit bal perdu, hein.
Ouais, voilà.
Qui n'était pas le morceau prévu, voilà. Quand même.
Non.
Enfin, il était prévu, mais on peut aussi parler d'un autre morceau qui serait dommage que les auditeurs ne connaissent pas.
On va pouvoir vu qu'on va pas le passer, puisque voilà. C'est quand même un morceau qui dure 14
tu
minutes
peux nous
30,
chanter,
on va pouvoir le chanter petit peu, hein, parce que j'ai un passé de chanteur.
On en a parlé.
Et puis David aime bien chanter aussi comme ça, mais en seconde voix, enfin assez précis.
Allez,
assez net.
On y va.
Alors,
on y va.
C'est un morceau qui s'appelle Pour la fin du monde. Alors, vous allez le connaître, bien entendu, c'est
Pour la fin du monde, prends ta valise, viens sur la colline, on t'attend.
Et puis après, il y a une suite de paroles, enfin, on s'en fiche. Voilà.
Ça, c'est le refrain.
Voilà. On t'avait commandé cette chanson-là, Nicolas.
Gérard.
Palapra. Hein, voilà, malheureusement décédé en 2017. Hein, c'est l'occasion aussi de saluer Dick Rivers, qui est mort cette année, qui a fait une chanson qui s'appelle Les Entrelacés. C'était bon aussi, on a failli la mettre. Hein, voilà. Et Gérard Palapra, cette chanson-là, en fait, est venue illustrer une autre action qu'on fait. Tout à l'heure, on a parlé des marchés bio. Et on participe aussi à d'autres actions sur notre territoire. On a participé à 53 tours.
Portés par le kiosque à Mayenne.
Portés par le kiosque, voilà. Le principe, c'est que les gens prennent le car et puis ne savent pas où ils vont et vont à la rencontre de 4, 5 propositions artistiques. Et cette année, le car s'arrêtait à Lassay-les-Châteaux. Et nous, bénévoles, salariés avec David, et puis un artiste qu'on a invité, on a simulé, on va dire, une fin du monde. Donc voilà, on était en combinaison, comme s'il y avait un virus mortel qui était venu sur Lassay-les-Châteaux. Et donc cette chanson-là est venue, on l'a chantée à tue-tête. C'était génial. C'est génial, parce que j'ai bien l'impression que vous avez envie de me couper là-dessus.
C'est long. C'est vrai que c'est long.
T'as une anecdote, ça demande à être fouillé.
Bah ouais, c'est ça. Alors, en même temps, on a besoin du contexte, effectivement.
Voilà.
Ok.
C'est tout.
Merci, Benoît.
Très bien. Revenons sur les entrelacés. Et on ne peut pas parler d'entrelacés si on ne parle pas de Lassay-les-Châteaux, évidemment. Puisque c'est le cadre, c'est l'écrin, c'est le socle de ce festival. C'est là, c'est cette ville que vous investissez. Parlons, présentez-nous. Présentez-nous là, Lassay-les-Châteaux.
Alors Lassay-les-Châteaux,
2400 habitants, voilà, avec une couronne à 10 000, c'est pour ça que c'est important, 10 000 habitants qui tournent autour, c'est pour ça qu'à Lassay-les-Châteaux, on a tout commerce, on a 4 coiffeurs, 5 cafés,
non, c'est intermarché,
et 2 salons bien-être, non mais c'est fou.
C'est fou.
Non mais réellement, et
petite cité
de caractère qui est beaucoup axée sur...
De 3 châteaux aussi.
De 3 châteaux. Voilà. Un château qui tient debout, un château qui est un peu en ruine, puis un château où il n'y a presque rien. Voilà. Et c'est Lassay-les-Châteaux, c'est une ville médiévale qui est assez visitée, assez touristique tout le reste de l'année, et où il se passe beaucoup de choses. Alors, on a parlé tout à l'heure du festival des Trois éléphants.
Qui est né là.
Qui est né là, à Lassay-les-Châteaux.
On n'a pas dit qu'on n'en parlait pas des Trois éléphants.
Ouais, si, on en parle parce que c'est cool. Et
on
c'est
peut
toujours
en parler.
Cool. Ouais. Ils étaient bien à Lassay, et puis ils sont partis. Nous aussi, on partira. Hein.
On fera comme Jean-François, quoi.
En tout cas, les Trois éléphants et avant le son et lumière, l'illustre son et lumière qui marque
nous
aussi.
Nous sommes nés des cendres du son et lumière, en fait. C'est ça l'histoire.
Voilà. En tout cas, tout ça fait de Lassay une ville festive, habituée à organiser des grands événements, des grands rassemblements, et sans doute aussi ça qui est à l'origine des entrelacés.
Oui, puis une culture bénévole. On est arrivé sur un territoire où les gens, effectivement, quand on parle du son et lumière, c'était 500 personnes du village qui étaient là et qui se mobilisaient tout l'été pour participer à cet événement-là. Les Trois Éléphants, c'était aussi beaucoup, beaucoup de bénévoles de la Salle et Château. Donc, quand on est arrivé, voilà, il y avait vraiment cette culture-là et des gens qui étaient professionnels de l'engagement, bénévoles. Eh ouais, mec. Merci.
Comment vous investissez la ville ? Parce que voilà, il y a plein de cadres différents qui peuvent être que vous pouvez exploiter. Est-ce que c'est un terrain de jeu que vous essayez
Ah bah,
de...
complètement, ouais. Ouais, complètement. Alors après, il y a les lieux qu'on utilise chaque année invariablement parce qu'ils sont aux bonnes dimensions pour accueillir des jauges conséquentes et puis des spectacles qui demandent de la place. Donc ça, c'est la roseraie, c'est les différents parkings, les cours d'école, enfin voilà, des lieux assez classiques. Et après, on essaie de faire aussi des formats, des propositions qui sont un peu plus vagabondes ou aventurières dans la ville. On a lancé Hors-Piste il y a 3 ans. Et l'idée d'Hors-Piste, c'était de proposer à des compagnies de créer des spectacles sur mesure, en grande partie, et de les inscrire dans un endroit insolite. Donc, chaque année, on essaie de trouver quelques lieux différents, nouveaux lieux privés, publics.
Une notion de surprise, du coup.
Exactement, ouais. Et puis, se retrouver dans un endroit qu'on n'aurait pas imaginé ici, ou alors des endroits qui sont chargés de quelque chose. C'est vrai que le patrimoine bâti, il est assez chouette à la Salle et Château, donc on peut vraiment s'en amuser. Et ouais, c'est une des caractéristiques du festival, quoi. C'est de faire en sorte qu'on utilise la ville là où elle est chouette, quoi.
Et justement, les arts de la rue sont parfaits pour ça, c'est qu'ils permettent aussi d'avoir un regard décalé sur l'environnement quotidien dans lequel on baigne, parce qu'à un moment on se retrouve à marcher dans une rue qui est habituellement occupée par les voitures, parce qu'on voilà, on est sur des on va investir des endroits où on ne serait jamais allé si le spectacle n'y était pas allé. Est-ce que c'est ça qui vous intéresse aussi avec les arts de la rue et que vous essayez de développer avec le festival ?
Bon, en fait, on développe deux choses. L'idée de l'espace public et de l'investir d'une manière différente et de poser un regard différent, bien sûr. Après, il ne faut pas se voiler la face. Il y a plein de spectacles qui sont des choses qu'on pose en plein air et qui peuvent être jouées
partout.
Partout, voilà. Mais effectivement, il y a chaque année des propositions qui sont vraiment liées à un type d'espace.
Mais même si c'est un spectacle finalement qui est rodé, qui peut jouer partout, ça décale quand même le regard, quoi. Enfin, à un moment, on se retrouve à regarder la ville autrement.
Et on le pense dans la programmation, David. Hein. Il ne faut pas arrêter d'être humble comme tu es, mais il va falloir le dire. C'est-à-dire qu'on ne pose pas juste un spectacle dans la ville quand on fait une programmation.
À
chaque fois, on essaye aussi de s'amuser avec une réinterprétation du spectacle, un petit peu grâce au lieu. L'année dernière, quand on a fait venir L'Étendue, qui était un spectacle qui parlait de la tombe des femmes à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et qu'on l'a fait finir dans le château de la Sée, voilà, c'était une volonté d'offrir un regard et une perspective sur l'histoire assez intéressante. Il y a plusieurs choses comme ça, voilà. David, tu veux peut-être rebondir
Non, après, je te laisse t'enfoncer sur cette intervention.
Ok, merci.
Les arts de la rue, c'est aussi, si on continue à creuser un peu les spécificités de ce domaine-là, c'est aussi un rapport particulier avec le public. Voilà, il y a une façon d'aller chercher les gens, d'interpeller les gens, d'impliquer les gens dans le spectacle qui est vraiment propre à ce genre.
Il
n'y
a pas vraiment de quatrième mur, quoi. C'est vrai que quand on est dans une salle de théâtre avec lumière éteinte uniquement sur le plateau, voilà, le public il est quand même relativement éloigné. Et puis il y a des codes qui sont globalement respectés par le public. Quand on est en rue, on est dans une dimension complètement différente. Le fait que ce soit gratuit, le fait que ce soit complètement libre d'accès, on peut entrer et partir comme on veut. Alors on dit pas aux gens de venir en cours de route et de repartir en plein milieu parce que ça les branche pas, mais en tout cas il y a cette possibilité là et cet échappatoire, et ouais, effectivement les compagnies l'ont en tête, savent que le public il est pas contraint par quoi que ce soit s'il à un moment donné il a envie de quitter le spectacle. Donc ça c'est une dimension déjà qui va changer le rapport au public. Et puis il y a cet espace ouvert, c'est à ciel ouvert, donc on n'est pas dans un contenant, même si le contenant peut être une place qui est close, fermé, un jardin ou autre chose. Mais en tout cas, le rapport à l'espace, il est complètement différent. Et il est à redessiner à chaque fois. Chaque ville va être différente. Donc un spectacle qui est écrit ne bouge pas, mais en tout cas le lieu dans lequel il va être joué change systématiquement.
Ça demande une souplesse aussi aux artistes qui est plus forte qu'un spectacle classique qui est joué sur une scène.
Complètement. Je pense que ça demande de la part des artistes une autre manière d'appréhender le lieu, quoi. Faudrait leur poser la question à eux, un petit peu comment ils définissent ça. Mais effectivement, on peut pas. C'est pas du tout la même chose que quand tu te retrouves dans un théâtre.
Alors, je parlais tout à l'heure des lieux que vous investissiez sur le festival. J'ai noté qu'il y avait 17 lieux, en tout cas, qui avaient été des lieux de spectacle, de représentation l'année dernière. Alors, parlons chiffres, puisque ça donne aussi des idées, des repères. Il y a quand même un public nombreux qui assiste au festival, puisque vous comptez 15 000 spectateurs.
36 000 l'année dernière.
Ça, c'est les chiffres. Bon. Bref.
Oh, le coquillou.
15 000, c'est bon
Ouais, 15 000, ouais, c'est 000. Ça, ouais. 15 000, ouais. 15 000.
24 compagnies accueillies, pardon. 103 représentations, j'ai noté. Mm. Voilà, c'est quand même conséquent.
Non, mais en fait, ça, c'est pas vrai. C'est juste pour avoir des sous de la part de la région.
Il y a 3 pélos.
Ça, c'est les chiffres officiels, mais quand il va,
voilà.
En fait...
Non, mais en vrai, voilà. Faut pas le dire. Non, en fait, la manière dont on... Donc, c'est vraiment des vrais chiffres. Quand on dit 15 000, c'est pas du tout un mensonge. Hein. C'est, en fait, on n'est pas capable de savoir combien de personnes différentes. Il y a beaucoup moins de personnes... Enfin, d'un point de vue individuel, on n'est pas à 15 000. On est peut-être à 3, 4, 5 000, je sais pas. Mais par contre, en tout cas, les jauges qu'on constate à chaque spectacle, donc on a des gens qui comptent les jeux à chaque spectacle, on additionne ces chiffres-là et on arrive à 15 000. Mmh. Pareil pour les représentations, en fait, il y a 24 compagnies qui viennent. Ces compagnies-là, quelquefois, proposent des choses dans le cadre de hors-piste qui sont différentes du lendemain. Quelquefois, elles jouent deux fois. Ouais. Et notamment des entresorts qui peuvent jouer 5, 6, 7 fois dans la journée et accueillir entre 10 et 50 spectateurs.
Oui, oui, oui.
Donc en fait, tout ça fait qu'on est grosso modo effectivement une centaine de représentations. Et en tout cas, ces chiffres-là, ils nous servent pas pour raconter quelque chose ou en tout cas faire valoir le fait qu'il y ait beaucoup de monde qui vienne, mais c'est surtout nous, ça nous aide à essayer de quantifier, enfin de trouver la bonne dose de spectacles chaque année pour absorber le nombre de personnes qui viennent, parce qu'effectivement on peut être vite submergé, quoi. Sachant qu'en plus ce qu'on essaie de faire quand même, alors on parlait de l'adresse publique tout à l'heure dans la rue, on a vraiment cette attention à l'égard du public et des compagnies, faire en sorte que les gens soient bien, donc d'avoir des choses qui soient
parce que retrouver à 2000 sur un spectacle qui n'est appréciable qu'avec 200 ou 300 personnes.
Exactement,
par exemple,
ouais. Ça c'est vraiment le souci qu'on a, quoi. Que la compagnie
spectateur
puisse jouer correctement et que le spectateur puisse vraiment apprécier le spectacle du début jusqu'à la fin, quoi. Ça c'est important.
Un mot quand même sur les bénévoles aussi, et justement qu'on pourrait chiffrer aussi, combien de personnes ça mobilise ce festival, combien de personnes contribuent à son organisation.
Bénévoles. Alors, les bénévoles, chez nous, on peut les diviser en deux catégories. Les sympas.
Non, pas du tout.
Pas du tout. Alors, même, vu que l'autre radio n'est pas diffusée à la salle des châteaux, ils ne nous entendent pas. On ne sait jamais, il y a un mec sur la route, peut-être à Château-Gontier. Non. Non, puis d'ailleurs, vous avez une appli, l'autre radio, qui fait qu'on peut vous écouter sur Internet. Enfin, on
tout
écoute
à fait,
beaucoup, exactement.
Tout à fait. Il y a un truc qui s'appelle Internet et qui fait effectivement permet d'écouter l'autre radio à Tokyo. À la scène.
L'entre radio. Et
ouais. Quel talent.
C'est l'école Michel Leb.
C'est pour
Clermont-Ferrand.
C'est pour dire le niveau des spectacles chez l'habitant de Benoît Gauthier. Ah, je
mets 300 à 400 accents.
Allez,
différents.
On reprend le sérieux. Bon, les bénévoles, quand je disais deux catégories, il y a les bénévoles.
Parce que là, pour l'instant, on n'a pas avancé
non,
sur
voilà.
le sujet.
Alors, les bénévoles, il y a deux catégories. Les bénévoles, la première catégorie, c'est ceux qui viennent sur l'événement même, qui vont donner un coup de main. Voilà,
le jour J qui arrive.
Ou J-1 pour donner un petit coup de main. J-2 pour certains,
J-7 pour d'autres,
très peu à J+1.
Ah voilà.
si, il y en a aussi à J+1. Voilà, c'est des bénévoles qui viennent pour le festival donner un coup de main sur l'occasion, sur le festival. Et puis, donc là, ça représente une cinquantaine, 50-60 bénévoles.
Non,
bien plus que
bien
ça.
Bien plus que ça, bien apparemment.
Non, mais 50-60. Alors attendez, on va se mettre d'accord. Ma première catégorie.
Global,
j'aurais jamais dû poser cette question, il y a encore dans une heure là.
Ma première catégorie, elle a 60. Ok, 50-60.
Plus les autres.
Plus la deuxième catégorie.
Ah,
voilà.
Okay,
excuse-moi.
On est deux.
cette intervention était complètement voilà,
mais non, mais
ça
vous
servait
me coupez,
à rien.
Mais attendez, je croyais qu'on
continue.
On prenait le temps. Alors,
60 plus.
Voilà, plus 20 personnes, une vingtaine de personnes qui à l'année, d'accord, là on parle plus de bénévoles, mais on parle bien de militants de l'engagement, c'est ce que je disais au départ, voilà, qui sont dans la réflexion de la ligne associative, des actions menées et qui font vivre le territoire tout au long de l'année, toutes les printemps. C'est une chanson que tu vas lancer, Nico, j'ai l'impression.
C'est ça, c'est ça.
J'ai parlé trop longtemps.
Bon, voilà, donc ça devait être envoyé sans annonce. Et c'est parti. Voilà, Grand Hôtel en live, un morceau qui s'appelle Tout. Grand Hôtel qui a fait ses premiers pas sur scène à la Salle et Château aux Entrelacés. D'où ce choix, David et Benoît.
Exactement. Premier pas sur gazon, je dirais même, dans la roseraie de la Salle et Château.
Je sais pas.
Un mot.
On enchaîne. Je croyais que t'allais dire un truc plus pertinent.
Non. Mais oui, je peux être pertinent. Grand Hôtel. Non, mais pour la petite
histoire. Mais rapidement le groupe, parce qu'on voit que ça va faire
Grand
plus,
Hôtel.
Mais quand même,
Grand Hôtel, c'est né des cendres et de la Casa et de Mazarin qui est pas mort
pour l'instant.
Hein, enfin, le vrai est mort, mais. Voilà.
Projet qui réunit trois musiciens,
voilà, Jérémy Sisko, Pierrot, Mayennais, et qui avaient pour ambition de goûter à une autre saveur que celle des salles de concert, et qui voulaient investir un peu plus la rue. On a suivi ce projet-là.
La rue, les petits espaces, en tout cas avoir une formule qui soit nomade. l'idée du trio. Ouais.
Autonome, pas.
Complètement, ouais. On les a fait chez l'habitant il y a quelques semaines. Et en fait, voilà, en 30 minutes, c'est installé à peine. Enfin, c'est juste une grosse caisse. Et c'est parti, quoi.
On les retrouvera cet été au Festival des Nuits de la Mayenne le 16 juillet et puis aussi au Chaînon Manquant un peu plus tard en septembre. Voilà, ça c'était le petit point agenda. Revenons sur votre rôle à vous sur le Festival des Entrelacés, la programmation, pour nous expliquer un peu comment vous travaillez et comment vous concevez cette programmation-là. Quelles sont les lignes que vous suivez, la façon dont vous collaborez tous les deux. Est-ce que vous êtes toujours d'accord ou parfois il y a des débats sur les choix. Je me souviens d'une discussion qu'on avait pu avoir, David, où tu me disais que le festival avait une ligne ou une dimension festive, populaire que vous aviez envie de garder, mais qu'en même temps, c'était pas et que vous boudiez pas ce plaisir-là, mais qu'en même temps, il y avait aussi l'envie de diversifier, de pimenter cette.
C'est ça. Alors nous, on n'utilisera pas l'expression en même temps parce que c'est toujours un peu particulier, ouais. Comme voilà. Mais oui, effectivement, on essaie de garder à l'esprit les choses qui nous plaisent, les choses qui font 1, 2, 3, 4.
Il était bien. Alors je vais reprendre. C'est là où je reprends, c'est quand il fait des blancs.
Voilà. Il est à terre, donc vas-y.
Je l'ai vu, il s'est regardé pédaler quand il parlait, et ça, c'est un risque. Alors moi, si je fais la même chose à ce moment-là.
Ah, il est pas dedans, là, je sais pas ce qu'il a.
Il est pas dedans, bah peut-être c'est la fin de
journée. Non, mais c'est pas ça. Non, on.
Tu reprends là ?
Ouais, je sais apparemment, il reprend le relais, ouais.
Vas-y, je te laisse.
Comment on programme ? Tout simplement, on regarde les choses sur Internet, on va pas les voir.
on
regarde les deux premières minutes, et puis s'il y a, selon les vues qu'il y a sur YouTube,
nombre de vues
et on les met, quoi.
Et puis le prix, quand même.
Voilà.
C'est ça. Bah, le prix, surtout. Après, l'année dernière, on a essayé de bosser avec un tourneur qui nous a fait la prog, c'était pas mal, ça a plutôt bien marché. Et là, cette année, on a fait un petit peu différemment. Non, on essaie de. En fait. La règle qui est immuable, c'est les choses qu'on programme, on sait les défendre et on sait pourquoi on les programme. Ça peut être des choses qu'on n'aime pas nous personnellement, ça peut être des choses voilà, qui nous passionnent pas, mais on saura dire pourquoi. Et l'idée, c'est d'avoir toujours en tête les gens qui viennent,
pourquoi ils viennent,
le contexte, pourquoi ils viennent, et puis de pouvoir mêler des choses voilà, qui vont être de l'ordre de la découverte, de l'ordre de la. D'une sensibilité un petit peu différente, du spectaculaire, alors pas uniquement pro spectaculaire, mais voilà, de quelque chose qui va être dans l'ordre de la détente, ou en tout cas prendre un spectacle juste pour le plaisir d'avoir un spectacle. Et effectivement, là, les choses circassiennes souvent remplissent ces
fonctions.
Ces missions. C'est ça. Mais oui, on a toujours en tête le public qui vient, et l'idée, c'est de pas oublier une partie des gens, quoi. Les gens qui viennent en famille, les gens qui viennent jamais voir de spectacle, les gens qui sont des gros fans de spectacle, les gens qui adorent le théâtre contemporain.
L'en faut pour tout le monde.
C'est pas qu'il en faut pour tout le monde, mais c'est plutôt essayer de faire une belle fête tous ensemble, où on va pouvoir cheminer de spectacle en spectacle. Et puis, alors l'idée, c'est pas de contenter chacun avec des trucs complètement différents, mais c'est vraiment d'avoir en tête la diversité et la diversité de qualité, quoi.
Le coprogrammateur a.
Ouais. Alors, on est
quelque
un duo.
Chose à ajouter.
Non, mais on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je pense, en disant que nous sommes deux programmateurs. Un avec un œil expert qui a eu l'habitude avant, et c'est dans son travail et dans son cœur de métier que de programmer des choses sur une saison culturelle et d'aller voir des spectacles et d'avoir cet œil-là et d'avoir en tête aussi tout de suite.
T'en fais un peu trop, là, je crois.
Non, mais comment on peut accueillir les choses, combien ça
c'est
va nous coûter, les exigences, les déplacements, etc. Et puis moi, je suis plutôt du côté un peu bénévole public. Et c'est vrai que dans ce qu'on programme, c'est souvent des choses qu'on voit tous les deux. Et puis on se fait confiance aussi. C'est-à-dire que David choisit des choses un peu contemporaines et un peu chiantes à regarder. Voilà. Le truc où il y a 3 ou 4 personnes devant. Et puis moi, c'est plutôt les trucs rigolos où ça pète. Et
là,
ça
cartonne, quoi, par contre.
Ça jongle, ça rigole, ça y va, quoi. Non, mais voilà, on fréquente des lieux ensemble. Du coup, on passe du temps ensemble avec David sur les routes des festivals. On va notamment à Sotteville. On commence généralement la
près de Rouen.
Sotteville et Rouen, voilà. Voir un petit festival en juin. Et puis après, on passe 5 jours sur Chalon, sur un gros festival.
Chalon dans la rue,
voilà, gros festival de rue. Où là.
On
enchaîne les spectacles. C'est-à-dire qu'on
là, ça y va, c'est 5, 6 spectacles par jour.
C'est
rien, ça. Que dalle. Mais non, 10, 15, ils en bouffent à la fin, ils en peuvent plus.
Ouais, je pense qu'on est plutôt entre 10 et 15, sachant qu'on on se donne cette règle des 15-20 minutes. C'est-à-dire qu'au bout de 15-20 minutes, si on n'accroche pas, on se permet de partir discrètement en gueulant. C'est nul, votre truc.
Programmera pas.
Voilà.
Mais on n'a pas le droit avant. Au bout de 5 minutes, pas le droit.
Quoi. Non, pas le droit de 5 minutes. Donc des fois, on se regarde, on était sûr. Ouais. Et effectivement, des fois, ça démarre après. Voilà. Donc on programme comme ça. On va voir, on éprouve nous-mêmes les choses, on ressent les choses. Et puis... Et puis, oui, vas-y, tu
veux... Oui. Alors, oui, c'est vrai qu'on voit les choses. Et puis, quelquefois quand même, on se dit, allez, ça a l'air pas mal. Et puis, on y va, quoi.
Sans avoir vu.
Ouais, sans avoir vu. Alors après, on essaie d'avoir...
Parce que vous connaissez le travail de la compagnie, parce que vous connaissez quelqu'un qui vous avez confiance, qui vous le conseille.
C'est ça, il y a toujours des choses qui font qu'on n'est pas non plus dans un choix complètement foufou, quoi.
Foufou.
C'est beau, ça, foufou.
Ok.
J'aime bien, ouais.
Et ce qui est bien avec la gratuité, c'est que vous n'avez pas forcément de contraintes de remplissage ce qui est le cas des festivals de musique à queue, par exemple, qui sont liés à une jauge qu'il faut remplir pour rentabiliser les investissements. Là, un peu moins le cas. Vous n'avez pas cette pression de...
Alors, on a la pression de la pression, justement. On a la pression de vendre des pressions, puisque nous, l'argent qu'on se fait pour l'association, voilà, c'est lié au bar et à la nourriture aussi, hein, qu'on vend sur la cour d'école en haut. Hein, pour ceux qui veulent manger cette année, vous êtes les bienvenus. Je ne sais plus ce que je voulais dire, voilà, je me suis perdu.
Si vous voulez, vos bénéfices...
Des mouillotins, non pas des mouillotins, des bouts de ficelle, pardon. Non, c'était pas ça.
J'imagine pour t'aider que... Voilà, les bénéfices du festival sont liés à la restauration, à la vente de bière, à la vente de boissons, à la vente de nourriture, et que du coup, moins vous aurez de gens et plus les bénéfices.
Mais on va se dire aussi qu'on a la chance d'être subventionné à 80%, d'avoir du mécénat privé à hauteur de 10% et de 10% d'autofinancement des bénéfices dont on parlait tout de suite, qui nous permet de se dire que s'il pleut et que s'il n'y a personne ou que si on replie sur la salle, puisque quand il pleut, on replie les choses dans la salle.
Ce qui est repliable, quoi.
C'est dommage pour nous, c'est dommage pour les bénévoles, dommage pour le public, mais voilà, il n'y a pas de perte d'argent réelle.
Il y a une dimension aussi qui est forte, et c'est lié à la programmation, tu en avais parlé un petit peu tout à l'heure, David, c'est quelque chose auquel vous êtes attaché, l'idée de pouvoir proposer des choses sur mesure qui ont été créées pour le festival, soit que vous avez sollicité auprès d'artistes avec qui vous aviez envie de travailler, soit aussi peut-être des propositions qu'on vous fait. Chaque année, il y a des spectacles inédits qui sont présentés au festival.
Ouais, ouais, chaque année.
Peut-être parler de justement ce que vous ferez cette année à ce sujet-là.
Ouais,
déjà commencer à parler de la prog de cette année, de l'édition prochaine.
Et oui, ça c'est une des particularités du festival. Ouais, on aime bien appeler les gens et puis leur faire des propositions et qu'ils viennent s'amuser chez nous. Et je crois que c'est un plaisir qui est partagé en fait. Enfin, souvent quand on fait cette proposition là aux compagnies, elles mordent directement quoi. Et il y a pas d'histoire forcément de conditions financières, etc. C'est vraiment d'abord une envie et souvent un retour en nous disant que c'est assez rare de faire des propositions comme ça. Enfin voilà, c'est parce qu'en fait nous en retour on pose un cadre, on donne 3-4 contraintes et puis après...
C'est carte blanche.
Complètement. Et,
l'année dernière, par exemple, pour donner un exemple à nos auditeurs...
Concret,
on a lancé...
On peut parler de l'année prochaine, enfin de l'édition prochaine.
Un petit appel à compagnie et puis on a fait un hommage à Johnny. Voilà, Johnny Hallyday qui était mort, on s'est dit on n'allait pas passer à côté. Donc on a demandé à 3 compagnies différentes, une de danse, une de musique et une plus de théâtre de rue classique burlesque, de faire une petite création, un petit entresort de 10-15 minutes sur Johnny.
Donc voilà, lien avec l'actualité, vous avez bondi sur le...
On a bondi. Et cette année, cette année, on a demandé des petites créations autour du 60e anniversaire de quoi, Nicolas Moreau? Alors, 60e anniversaire de
la
quoi
lune.
De la Lune.
Bien joué. Ouais,
alors, pas la Lune qui a été créée il y a 60 ans. On a marché sur la Lune, effectivement.
Premier homme sur
le 20 juillet 1969. Et donc, cette année, il y aura des petites surprises autour de ça. Et vous allez voir de la Lune à la Salle des Châteaux.
Alors, vous l'avez promis, le voici, le voilà. Pour terminer cette émission, enfin, on en parlera un petit peu encore avant, mais c'est le dernier titre que vous nous avez proposé d'écouter. Didier Super, Manipulez-nous mieux.
Mettez à fond.
Alors ça, c'est ma chanson que j'écris pour faire trembler tous les gouvernements du monde. On est perdu, on croit plus rien, même les vieux, ils ont capté.
qu'en fait notre président, c'est pas lui qui dirige vraiment, que nos vrais chefs, c'est des banquiers qui ont réussi mieux que lui. Et c'est pour ça, droite ou gauche, eh ben non, ça reste à droite. Tout le monde sait qu'on gagne les élections comme on vend des yaourts, simplement en passant à la télé tous les jours. Mais ma mère, elle a capté que la crise n'existe pas, que c'est l'invention de certains gros riches pour vendre nos usines aux Chinois. Tout le monde a compris que les infos, ça sert juste à nous faire peur, en nous montrant la merde des autres pour qu'on se contente de la nôtre. Alors vous, les beaux costards qui décidez de notre sort, ne nous laissez pas comme ça, ça fait trop peur, faites un effort. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Construisez vos piscines en fermant nos usines, mais putain, faites-nous rêver, faites-nous croire que vous nous aimez. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Servez-vous dans nos frigos, nos impôts c'est déjà cadeau, mais faites-nous croire qu'il y a des martiens, ça fera moins peur que croire en rien. Dans les écoles, demande qu'à croire cette histoire, que si au pays des barbus, y'en a qui nous veulent pas du bien, c'est juste à cause d'une religion, et donc ça n'a aucun lien avec les militaires qu'on leur envoie régulièrement pour leur bien. Manipulez-nous mieux, manipulez-nous mieux. Allez, juste un petit effort, on vous demande pas grand chose. Vous savez aussi bien que nous qu'on n'a pas inventé l'eau chaude. La plupart d'entre nous, on aime bien se contenter de peu. On cherche pas trop à réussir et encore moins à diriger. On n'a pas très envie de passer à la télé et encore moins envie d'être reconnu dans la rue. La plupart d'entre nous, on saurait pas quoi foutre d'un autre. On voit pas l'intérêt d'accumuler autant de milliards. On n'a pas l'intention de laisser notre nom dans l'histoire. Et c'est peut-être ça qui prouve que par rapport à vous, en fait, si ça se trouve, eh ben c'est nous qu'on est évolué.
Voilà, Didier Super, peut-être un jour à l'AC.
Ah, il est super, Didier.
Hein, ça serait bien.
Ah ouais, c'est drôle. Hein, c'est
ça
drôle.
Serait bien, parce qu'en fait, il vient de l'art de la rue aussi, Didier Super. C'est là qu'il a commencé. Non
si. Ouais, c'est ça. Il vient de la rue, c'est un fou.
BMX.
Voilà, et on l'a mis parce qu'on aimerait bien le faire chez nous, et puis aussi pour dire qu'on a plusieurs propositions dans ce style-là qui sont complètement déjantées, décalées, où il faut avoir du deuxième, troisième degré voilà, pour rentrer dans le spectacle, et c'est chouette.
Justement, cette année, est-ce qu'il y a voilà, des coups de cœur, des pépites, des conseils que vous voudriez nous faire, des recommandations sur la programmation des 13 et 14 juillet prochains sur les...
Alors on a le sosie de Jean-Jacques Goldman.
À pas manquer.
Pas du tout, non, mais système de pépites, c'est compliqué toujours, ce truc, cette question de pépites. Ouais. Tout est pépites, c'est le festival qui est
pépites. Tout est pépites.
Tout est pépites.
Tout est jeu, tout est pépites.
Tout est pépites.fr.
Ouais. Ok, bon, bah au revoir.
Non, mais c'est compliqué, voilà, il y a plein de choses. Bien sûr, on a un petit coup de cœur et un peu plus de stress sur les choses qu'on met en place nous-mêmes. On en a parlé juste avant de création, voilà. Mais après, tout ce qu'on invite...
En fait, c'est pas tant des pépites, c'est plus des spectacles où on va aller jeter un œil, voir comment les gens réagissent, quoi. Il y a deux, trois spectacles où nous, on a vraiment pris du plaisir et puis on a hâte de voir si ça fonctionne.
Alors,
C'est Jaurès, par exemple. En fait, on accueille une vieille compagnie de rue qui s'appelle la compagnie CIA, compagnie internationale Alligator, compagnie du sud de la France, qui vient avec un spectacle qui s'appelle Jaurès. Et en gros, eux, leur credo, c'est vraiment de reprendre soit des faits historiques, soit des personnages historique et de nous raconter l'histoire. Donc on est vraiment dans l'évocation du personnage et de la figure de Jean Jaurès. Et nous, ce qui nous plaît bien là-dedans, c'est à la fois le bonhomme, mais aussi toutes les valeurs qu'il peut y avoir derrière et comment est-ce qu'on peut nous retransposer ça dans notre vie de tous les jours, quoi. Mmh. Et puis le fait d'avoir comme ça une entrevue sur une période, une époque qu'on connaît pas forcément ou alors qu'on a entrevue à l'école. Et voilà, là, ça prend. Et sachant qu'en plus, là, dans la rue, ça prend une autre dimension, quoi.
Rentre ici, Jean Jaurès. Ouais, j'ai raté l'école.
Et là, tu l'as pas vu le spectacle, je pense. Bon, bref.
Si, je l'ai vu.
Il y a ça, par exemple. Puis après, dans un registre complètement différent, il y a Typhus Bronx.
Oui, oui, oh ça. Là là là, on parle pas. Ça. C'est crasse, c'est dur, c'est un clown dur. Tu vois, les gens vont voir clown écrit, ils vont y aller avec des gamins.
Et c'est
les gamins
pour
vont pleurer. Hein. Voilà, c'est non, ça, non, mais on le ça. Dit ça sur les programmes. Hein. Il y a des spectacles qui sont pas conseillés en dessous
donc
de 12-15 ans.
Un clown dur et pas drôle.
Un clown qui est un peu enfermé dans sa tête, qui attend sa sortie de l'hôpital psychiatrique, qui nous raconte un petit peu tout ce qu'il vit et tout ce qu'il vit à l'intérieur. Et c'est vraiment... Enfin, c'est drôle. Mais pas que, parce que ce qu'il raconte, c'est assez profond, quoi. Donc, et ça, effectivement, ce qui est assez marrant, c'est de voir les familles qui viennent, et puis malgré nos recommandations, en disant, bah non, c'est peut-être pas trop pour les enfants, le moment où ils se rendent compte qu'effectivement, on avait raison, et qu'ils auraient dû nous écouter, là, on
jubile. Et là, on les monte du doigt, et puis on les dénonce.
Ça. Allez, un troisième,
et un troisième...
Peut-être là aussi où on a une petite aussi appréhension, c'est sur le spectacle qui est en amont, qui vient ouvrir le festival, hein, puisque le festival.
J'aurais pas vendu ça, mais.
Si, c'est le 13 et 14 juillet,
voilà,
le festival.
C'est bien de parler de cette introduction.
Et puis le mardi d'avant.
Ah, pardon.
Là, on est hors piste, mais de l'hors piste. C'est-à-dire que le mardi d'avant, 9 juillet, on délocalise un spectacle, c'est-à-dire qu'on vient habiter le territoire et on vient poser un spectacle et le poser. Et faire vivre la commune qui nous accueille, qui est Saint-Frimbaud-de-Prières. Et là, on fait un spectacle plutôt sympathique, David.
Exactement, au pied du barrage de Saint-Frimbaud, un spectacle qui s'appelle Coyote, compagnie Cirque Exalté. Un spectacle tout neuf, créé en 2019, d'un circassien qui jongle, qui raconte des choses. Je ne sais pas si on va raconter l'histoire là maintenant.
Non,
il ne
faut pas spoiler non plus.
Pardon ?
Faut pas spoiler.
Non, mais exactement. À la fin,
il meurt.
C'est le mec en fauteuil qui monte sur le trône. Ouais. Oups ! Oh là là !
Ok, donc ça sera l'apéro de l'apéro le 9 juillet à Saint-Frimbaud-des-Prières. Premier rendez-vous.
De prières.
Toi, à la campagne.
C'est pas du Normayenne, toi.
J'y vais pas tous les jours.
Hein. C'est ça.
Bien, écoutez, je pense qu'on a bien travaillé. On a...
Moi, je rajouterais bien un petit truc quand même, moi, sur les spectacles. Non, tu veux pas, Nicolas ?
Si, je veux bien.
Non, mais dans les choses qu'on aime bien présenter au public, et cela, c'est plein de propositions, c'est ce qu'on appelle hors-piste. Cette idée d'accueillir les gens sur la place du village à 18h le 13 juillet.
Le 13 juillet, le premier jour.
Voilà, donc en fait, il n'y a rien qui est dévoilé dans la programmation, ni dans la plaquette, ni nulle part. On ne sait pas du tout ce qu'on va voir. Le principe, c'est que les gens viennent sur la place, ils viennent à 18h, 18h30, 19h, peu importe, ils viennent quand ils veulent.
D'accord.
On leur remet une carte. Sur cette carte, il y a des points qui sont disséminés dans la ville, avec une indication qui peut être un mot, un titre évocateur d'un spectacle, éventuellement des contraintes, une consigne, pas pour les enfants ou pas accessible. Et les gens vont se balader là où ils veulent, quand ils veulent, et découvrir comme ça des choses partout, justement dans des lieux insolites et dans des registres qui ne seraient pas forcément allés voir si on avait signifié ce que c'était.
Là, c'est vraiment la découverte.
Complètement, voilà, les yeux fermés.
Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de
d'avoir
joué
à
le jeu
radio,
de l'interview.
Ah non, mais on est bien chez vous.
On est bien.
Et merci à toute l'équipe technique, au public qui était là présent.
Voilà.
C'est vraiment sympa.
Effectivement, je remercie aussi Vincent qui a assuré la régie de cette émission.
Il est bien, Vincent. Hein.
Il est bien,
et
il est
puis,
bien.
Et chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous à la rentrée maintenant. Pour la suite de nos aventures radiophoniques. D'ici là, passez un bel été, profitez bien du soleil et des festivals. Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde, pas de vêtements. Et mes photographies, laisse-les-là. Et ma boîte à outils, laisse-la aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. Laisse tes bijoux, tes machines à sous. Pour la fin du monde, pas besoin d'argent. Mon avion, mon képi, laisse-les là. Ma canne et mon fusil, laisse-les aussi, mon vieux, tant pis. Mais pour la fin du monde, prends ta valise et va là-haut sur la montagne, on t'attend. N'aie plus peur de rien, tout ira très bien. Pour la fin du monde, viens tout simplement. La montagne.
montagne on t'attend. Mets dans ta valise une simple chemise pour la fin du monde.